La merdification, c'est tout un art, ça, non ? C'est l'art français, non ? C'est l'art de merdifier, en fait, tout ce qu'on fait. Shitification.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour passer l'époque au scalpel de notre curiosité. Un scalpel particulièrement affûté aujourd'hui puisqu'on va zoomer sur un phénomène assez pointu que notre rédacteur en chef, le toujours jovial Cyril Lacarrière, a accepté de traiter sans comprendre vraiment de quoi il s'agissait, juste parce que, je cite, « le nom était rigolo ». Zoom aujourd'hui sur la merdification, traduction littérale du concept anglo-saxon « denshitification », qui, attention, n'est pas une pratique borderline de GC dans certaines soirées interlopes, mais un phénomène qui frappe les plateformes TikTok, Insta, Facebook et plus globalement tous les réseaux qui ont atteint une taille critique. L'expérience finit par se dégrader, se merdifier. Cyril le constatait lui-même l'autre jour alors qu'il voulait simplement poker son ami Pascal Pro sur Facebook et qu'il réalisait, choqué, que la fonctionnalité poke n'existait plus. Il a été obligé de faire sonner son tam-tam. Ce qui le confirme dans son idée que c'était quand même mieux avant. Même si lui-même avait connu la merdification avec sa célèbre chaîne de vidéoclub Vidéo Avenir, qui au départ offrait un vrai plus à ses abonnés. L'opération un porte-clés d'Orcel offert pour 10 VHS porno loués avait hyper bien marché. Puis Cyril s'était reposé sur ses lauriers, il avait commencé à insulter les clients qui ne rembobinaient pas les cassettes. Au tournant des années 2000, il s'était fait bouffer par Vidéo Futur. Alors, en quoi consiste ce processus de merdification qui touche aujourd'hui les plateformes ? Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu plus grave que les pratiques nocturnes de GC ? Est-ce que ça touche d'autres secteurs que la tech. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Mathilde Abel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Mathilde, vous êtes économiste spécialiste des enjeux numériques et de l'économie des plateformes. Vous dites que la capacité des plateformes à faire de la discrimination par les prix et à dégrader leurs services a toujours fait partie intégrante de leur modèle économique. C'est ce qu'on appelait la merdification. Vous allez tout nous expliquer, juste le temps de vous présenter ceux dont le service ne se dégrade pas du tout. Trois ans qu'on bosse ensemble et ils continuent de m'émerveiller au quotidien. L'une par sa capacité à caser le mot iconique dans chacune de ses chroniques, l'autre par son incroyable capacité à rebondir après une vanne tout en flattant l'invité, même si l'un dans l'autre, ça n'a aucun sens. Dans tout ça.
Vous avez une Rolex.
Vous savez pourquoi j'ai une belle montre ?
Parce que vous aimez.
Pour lire Les Heures Fragiles.
Oh. Ben non, Mariani, Quentin, lui, le tandem de la win, vraiment bonjour.
Bonjour.
Bonjour
à tous.
Toujours le bon mot.
Toujours le bon mot, toujours pour rebondir au moment adéquat. Manon, chaque après-midi, vous dégotez pour nous l'autre personne à suivre sur notre thème et c'est souvent iconique.
Oui, alors aujourd'hui, je n'utiliserai pas le mot iconique pour décrire la personne dont je vais vous parler pour la simple et bonne raison qu'il a créé un empire de merdification et qu'aujourd'hui, il lèche les bottes de Donald Trump.
Ah, vous attaquez très très fort.
Oui, oui.
Face à vous.
On l'aime pas.
Face à vous, Mathilde Abel, il ose se moquer de moi parce que je suis sur Instagram Pascal Légitimus, alors que lui, il suit Daniel Morin. Chacun ses humoristes du temps jadis, mon vieux. Quentin. Non,
il vient de se mettre sur Instagram, il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai que c'est nouveau.
Ah oui, c'est tout nouveau. Daniel a découvert.
Il débarque sur Insta, c'est vrai. Mieux vaut tard que jamais. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, la merdification, ils l'aperçoivent ou pas ?
Il voit tout à fait de quoi on parle aujourd'hui, mais n'avait pas tout simplement mis un mot dessus. C'est à ça qu'on sert, bon sang.
Ah, bien sûr.
Signification de merdification, emmerdification. Emmerdification en québécois, si on veut le dire bien.
Vous auriez pu vous passer de l'accent, mais oui.
Pourquoi, tout à fait, pourquoi toutes les bonnes idées sur le papier se dégradent à cause du profit et du temps qui passe ? Vos réactions dans ce micro-trottoir complètement à la rue, ce sera dans la prochaine demi-heure.
Aux alentours de 16h30, il sera grand temps de tester les capacités cérébrales de Manon et Quentin, histoire de vérifier qu'une merdification neuronale n'est pas en cours dans les caboches de nos chers chroniqueurs. On jouera au Zoom Zoom Test autour des meilleurs commentaires Amazon. Vous devrez deviner de quel produit on parle.
Ah, marrant, ça.
Juste avant 17h, on sera rejoint par Lucie Carbone. Mais d'abord, Mathilde Abel, est-ce qu'il y a une stratégie sciemment mise en place par les plateformes pour devenir, au fil du temps, moins bien, moins performante ?
Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une stratégie ? Oui. C'est-à-dire qu'en soi, la merdification, en fait, comme c'est pas juste, c'était mieux avant, c'est pas plus de pubs ou moins de bons films, c'est pas plus de friction, c'est un véritable mécanisme économique et organisationnel. Souvent, ce que je propose, et ce que j'ai proposé dans ma thèse, c'était d'analyser cette dynamique à travers d'un pouvoir très spécifique, qui est celui des plateformes, qui est un pouvoir, en fait, de valorisation. C'est ce qui leur permet, même en dégradant la qualité visible donc, d'un service, de rester dominante et de chercher à être profitable. Donc c'est un processus, la mordification, c'est lorsqu'une plateforme, elle détériore ce que l'on voit, ce qu'on consomme, ou même le processus de production, mais qu'elle reste incontournable, parce qu'elle contrôle ce que l'on cherche, ce que l'on trouve, et au final donc ce qu'on paye.
Mais ça leur coûterait pas plus cher de rester bon ?
Si, ça leur coûte. En fait, la question, ce n'est pas de savoir ce qui est plus cher. La question, c'est de savoir ce qui marche. Quand on parle des plateformes, on peut envisager trois types de qualité. Quand on parle de merdification, en réalité, on parle de dégradation de la qualité de service. En réalité, il y a trois types de qualité dans l'économie de plateforme. Celle qui concerne les consommateurs finaux, c'est-à-dire ceux qui sont d'un côté du versant du marché, ceux qui produisent ce service-là. Et puis, il y a la qualité de l'appariement, du matching. Et cela, vous ne le voyez pas. Ce que les plateformes font en permanence, parce qu'en fait, ce sont des championnes de la discrimination donc par les prix, c'est qu'elles sont toujours à la recherche de marge de manœuvre qui leur permettent de réduire les coûts d'un côté, tout en assurant au maximum cet appariement-là, ce matching-là.
La merdification, un mot qui rappelle tant de souvenirs à Cyril Lacarrière. Notamment ce message acerbe que lui avait laissé le patron de Vidéo Future sur son pager Tam Tam le lendemain de la mise en liquidation judiciaire de Vidéo Avenir. Bonne chance à la NPE, la carrière.
Maintenant.
Ouais, c'est vrai, vous y êtes retrouvé quelques années plus tard, finalement. Tout est bien qui finit bien. Cyril, racontez-nous la merdification, d'où ça sort.
Vous l'avez dit, enshittification, un joli mot anglais qu'on a donc traduit par merdification, un néologisme que l'on doit à Cory Doctorow. Qui est-il ? Wikipédia nous dit que c'est un blogueur, mais en fait, il est beaucoup plus que ça. Il fait partie de ce qu'on appelle des Internet évangélistes, les pionniers d'Internet, ceux qui ont défriché le terrain pour nous. Doctorow s'intéresse principalement à deux sujets, la science-fiction, il écrit des romans dessus d'ailleurs, et le numérique. Et plus spécifiquement, comment le secteur s'est démocratisé, comment il a été cannibalisé par des géants et comment faire en sorte qu'Internet puisse rester libre. Pas simple tout ça. Son dernier livre en date, Le Rapt d'Internet, manuel de déconstruction des big tech ou comment récupérer les moyens de production numérique.
C'est dommage que vous ne l'ayez pas dit en anglais, ça.
Oui, c'est un peu long.
C'est un peu long, oui. Et donc, c'est à lui qu'on doit cette notion de merdification ?
Oui, il y a 2 ans, il publie une note de blog intitulée TikTok's Entification.
Entification,
oui. Une notion qu'on peut expliquer comme ça, une détérioration généralisée de la qualité d'utilisation d'une plateforme. Un nivellement par le bas sous l'effet cumulé de la standardisation, de la recherche du profit et de la perte de sens. Et voici comment Cory Doctorow définit le cycle de cette magnification. D'abord, les plateformes sont utiles pour les utilisateurs. Puis, elles abusent d'eux pour satisfaire leurs clients, c'est-à-dire ceux qui payent pour y faire de la pub. Ensuite, elles abusent de ces mêmes clients pour s'accaparer toute la valeur générée. Et ensuite, attention, c'est dramatique, ces plateformes meurent. C'est en tout cas la thèse de Doctorow. À en croire le blogueur, c'est le destin tout tracé de toutes les plateformes d'Internet, victimes inéluctables d'une stratégie qui les mènent à leur perte. Alors, sommes-nous donc condamnés à subir cette modification ? Comment les plateformes peuvent-elles y échapper ? Qu'est-ce que ça raconte de nos usages aujourd'hui sur Internet ? Est-ce que ça s'applique à d'autres secteurs que le numérique ? Est-ce que c'était mieux avant ? C'est ce qu'on va voir dans une heure.
Merci Cyril. Mathilde Labelle, quel est l'intérêt pour ces plateformes de se saborder en quelque sorte ? En tout cas, si on souscrit à cette thèse qui voudrait qu'à la fin, in fine, la plateforme disparaisse. Ça, on n'est peut-être pas encore là.
Eh ben, en fait, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes, elles ne se sabordent pas en faisant ça. Elles ont une idée très précise de ce qu'elles font. Les plateformes, ce sont les spécialistes de l'évaluation et de la valorisation. C'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de vérifier si vous appréciez ou non ce qu'elles produisent. Et donc, ce qu'elles font, de manière différenciée, hein, c'est-à-dire qu'elles sont toujours entre différents versants de marché. C'est-à-dire que même si vous utilisez, par exemple, Facebook, il y a des publicitaires derrière. Maintenant, Netflix, vous avez souscrit un abonnement, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui vont produire ces contenus-là. Et maintenant, il y a aussi des publicités aussi sur Netflix, etc. Donc en fait, on est sur ce qu'on appelle des marchés à plusieurs versants. Et donc, pour reprendre votre question, elles ne se sabordent pas, elles savent très précisément ce qu'elles font parce qu'elles vont tout le temps évaluer en continu la perception que vous avez du service qu'elles sont en train de produire.
Comment elles font ça concrètement ?
À travers un certain nombre à travers l'engagement en fait que vous avez vis-à-vis de leur service. Donc si c'est par exemple Facebook, c'est le temps que vous allez faire, le nombre de clics que vous allez faire, le Netflix, ça va être le temps de visionnage, etc.
Ah oui, ils enregistrent tout ça en fait.
Ah oui, tout ça est enregistré. Tout ça est enregistré, mais toujours attention à l'aune du profit qu'elles peuvent faire en revendant pas les données. Hein. Je précise, mais leur capacité finalement à apparier cet engagement au regard de l'autre versant de marché qui peut être soit du publicitaire, soit des producteurs, etc.
Est-ce que le problème, c'est pas le capitalisme, tout simplement ?
Sacré Quentin.
On appelle ça le capitalisme de plateforme.
Ouais, justement. Ouais.
C'est une thèse qui est déjà un peu ancienne, hein, ça date de 2016. Ouais. C'est une reformulation, on va dire, moderne du capitalisme.
Mais si on reprend la définition de merdification pour qu'on comprenne bien, donc ça veut dire que c'est quand une entreprise démarre, veut donner du contenu entre guillemets positif aux utilisateurs et qu'au fur et à mesure, en fait, elles mettent des publicités, que ça devienne payant, etc. Est-ce que c'est vraiment la définition de merdification ?
Alors, On pourrait dire que c'est la définition de la merdification. Je pense qu'on est plus proche, on va dire, en termes de définition de ce, que, de ce qu'a dit, en fait, de ce qu'a présenté Cory Doctorow. Mais en réalité, c'est ce qui est présenté dans, les, dans la plupart des manuels, on va dire, de managériaux de plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, elle se développe généralement en quatre phases. D'abord, elle est dans une phase de lancement, généralement avec du capital risque. Ensuite, elle va chercher en fait, à détenir une part de marché très forte, généralement en subventionnant ce marché-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez bénéficier pendant un certain temps d'un service gratuit ou peu cher. Ils subventionnent en fait, un versant du marché. Puis après, au bout d'un moment, bah, il faut rentrer dans ses fonds. Et donc, en fait, donc les plateformes, elles viennent extraire une partie de la valeur. Généralement, à ce moment-là, on advient sur un plateau, et c'est à ce moment-là, on parle de, dans les manuels, on parle de, c'est la phase de maturation. Et elles peuvent décliner, effectivement. Et ce déclin-là peut prendre la forme, mais encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, d'une forme de merdification. Toutes les plateformes ne le font pas.
La merdification, en tout cas, n'a pas sa place dans la programmation musicale de France Inter. Voilà pourquoi, désavouant Cyril, qui voulait qu'on réécoute Discothèque de U2, on va plutôt écouter les Chemical Brothers. Hey boy, hey girl, sur Inter.
Girls, the boys, superstar DJs, here we go!
L'économie des plateformes n'a pas de secret pour elle. Cyril me disait même en antenne que c'était son dada. Mathilde Abel est toujours avec nous pour zoomer sur la merdification, un phénomène qui frappe les plateformes notamment. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de plateformes qui plongent dans cette forme de dégradation programmée? Est-ce que Facebook, c'est vraiment l'exemple type ou il y a d'autres exemples plus flagrants aujourd'hui?
En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'il y a toujours une promesse et à un moment, on regarde si la promesse, elle est remplie ou pas. Mais ce que je disais, c'est que la subvention au début du marché, elle est fondée sur une promesse. Facebook, c'est l'exemple type. Au début, c'est fondé sur le lien social, pas d'extraction de données, pas de vente, etc. Et aujourd'hui, finalement, on est sur des contenus polarisants et une forme de merdification qui, en plus, est accrue, en fait, par justement le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de, ou quasi plus de modération sur ces plateformes-là. Et en plus, tout ça est monétisé via la publicisation des contenus. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que même, par exemple, quand vous regardez au début le service premium Netflix, Netflix, c'était la plus grande base de vidéos à la demande, du service de qualité. On allait chercher des vieilles séries, etc. etc. Et tout ça à un prix unique et éventuellement une gamme de prix supérieure si on voulait partager l'écran avec d'autres personnes. Mais en gros, c'était ça. Aujourd'hui, en fait, comme les plateformes sont les championnes de la discrimination par les prix, elles sont capables capable finalement de proposer des gammes premium beaucoup plus chères, mais aussi en parallèle de proposer par exemple de la publicité d'une part, et d'autre part aussi des contenus qui sont moins qualitatifs, y compris dans les systèmes de vidéo à la demande.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que les plateformes avaient tout ça en vue depuis très longtemps, ça faisait partie d'une stratégie à long terme, c'est-à-dire que Netflix savait dès le début que 6 euros, ça allait être l'abonnement pour tourner 6 euros pendant un moment, mais qu'un jour, quand on serait captif et qu'on ne pourrait plus passer de Netflix, parce que c'est devenu un réflexe dans notre quotidien, Netflix ou d'autres plateformes, ce jour-là, ils savaient qu'ils augmenteraient les prix et que là, ils auraient un business model incroyable.
Alors, je ne sais pas si c'est cynique de dire ça, mais en tout cas, je ne vais pas l'être, mais en tout cas, ça fait partie de la trajectoire qui est proposée dans les modèles économiques de plateforme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles doivent détenir un pouvoir de marché et être rentables. Donc, au bout d'un moment, en fait, la promesse du début, potentiellement, va être reformulée et on va avoir une autre convention d'échange avec potentiellement une augmentation des prix et ou une dégradation de la qualité.
Sur Netflix, justement, la dernière saison de Black Mirror, la fameuse série d'anticipation, elle propose un épisode sur une appli connecté au cerveau, qui permet à son utilisateur de rester en vie, mais petit à petit, et cet épisode est génial, l'appli envoie de la publicité, et l'abonnement est de plus en plus cher. Par exemple, si la personne veut se déplacer de la zone où elle est, à un moment, elle ne capte plus, donc elle dort, elle passe son temps à dormir. Et donc, pour rester éveillée le plus longtemps chaque jour, la personne est obligée de souscrire à des abonnements premium, toujours plus premium, etc. Est-ce que ça, c'est une belle image de ce qu'est la merdification ? C'est-à-dire qu'on va devoir payer toujours plus cher pour avoir finalement la même qualité de service, si on veut rester sur une même qualité de service ?
Sincèrement, c'est compliqué de vous répondre puisque les modèles économiques varient beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, les plateformes, pendant longtemps, elles ont cru que le modèle de l'abonnement les sauverait justement de la merdification. C'est-à-dire que finalement, c'était un fonds de roulement suffisamment important qui leur permettrait, en accroissant le marché, de continuer à proposer un service de qualité. D'ailleurs, essentiellement dans la période post-Covid, on voit qu'il y a une dégradation du service et qui suppose effectivement une gamme de prix éminemment différenciée en fonction des segments de marché. Donc on a des personnes qui sont disposées à payer moins cher, y compris des contenus assis, enfin en contrepartie en regardant des publicités, et de l'autre effectivement des contenus toujours plus premium. Après, il y a aussi, des plateformes, par exemple comme Spotify ou comme d'autres, qui vont continuer à avoir les mêmes prix, mais qui vont produire des services premium en espérant capter un autre segment de marché. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une décision qui est éminemment stratégique. Ça dépend aussi finalement derrière, c'est toujours la question évidemment qui est urgente, celle du capitalisme actionnarial, c'est-à-dire de savoir comment une plateforme est rentable, quel est son modèle économique et derrière son niveau de profitabilité.
Quitte à être à perte au début, ça c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'on lance une application et on ne gagne pas d'argent. Mm-mm. Mais comment ça marche, ce modèle-là ?
C'est un modèle assez capitalistique, assez standard aux États-Unis. Hein. Et d'ailleurs, la plupart des plateformes aujourd'hui ne sont toujours pas rentables.
Toujours pas ?
Ah non, toujours pas. Par exemple, Airbnb est rentable pour la première fois depuis l'année dernière, il me semble. Et encore aujourd'hui, dans un système économique qui est très précaire, on pense qu'essentiellement, d'ailleurs, cette rentabilité est liée à la période post-Covid, mais qu'elle est toujours très précaire, cette rentabilité-là.
Manon ?
Mais qu'est-ce que les consommateurs ils peuvent faire contre cette merdification? Parce qu'en fait, c'est
Juste subir.
Oui, c'est ça, c'est à notre détriment un petit peu.
Alors, la question, c'est plutôt celle de la régulation. Parce qu'à l'échelle individuelle, en fait, effectivement, on peut...
On subit, quoi.
Voilà, on peut subir, on peut pas subir. Alors, je pense que ce qu'on peut faire, c'est retrouver des capacités cognitives à l'aune de ce qu'on nous fait consommer. C'est-à-dire, par exemple, désactiver son historique YouTube pour pas avoir des contenus qui sont poussés de manière proactive. En fait, toute l'idée, c'est de parvenir à lutter, finalement, à l'échelle individuelle, mais juste pour on va dire sa consommation personnelle au regard de la puissance des algorithmes sur ce qu'on peut faire pour retrouver finalement un peu de capacité cognitive. C'est un peu ça le...
La merdification, c'est un phénomène qui frappe les plateformes, mais aussi le cœur de Quentin, lui. Un être aigri qui jalouse mon carnet d'adresses People et ne supporte pas que je puisse compter Pascal Légitimus parmi mes amis Facebook, s'il savait que je discute aussi avec Pierre Perret sur Copain d'avant. Enfin, Quentin, vous êtes allé interroger les passants sur cette notion de merdification.
Je marche non loin du Trocadéro, cette place qui donne une vue imprenable sur la Tour Eiffel, au milieu des cars de touristes. Je tombe sur Adriane, costume bleu Macron, une chemise impeccable.
Bleu Macron, c'est un bleu, ça. Bleu Klein, le bleu Macron.
Oui, très bien lequel c'est en tout cas.
Oui, tout à fait.
Il est consultant en marketing, il découvre...
La merdification. Ah oui.
C'est quoi ?
Bah je sais pas, je connais pas le nom. Alors, le concept de merdification dessine un processus de dégradation qualitative, souvent lié à des logiques de rentabilité, de simplification ou de massification. Je connaissais pas le terme, mais je suis assez d'accord avec le concept.
Je demande au consultant cravaté à quoi ça lui fait penser.
Le premier qui me vient en tête, c'est le journal télévisé. C'est-à-dire, vous regardez le journal télévisé, vous regardez le nombre de minutes attribuées à chaque typologie de sujet. Si on regarde par exemple l'effet d'hiver, aujourd'hui ça représente presque 50% malheureusement du JT, alors que dans les années 80-70, ça représentait peut-être allez, 5 à 15%, et on avait plus de économie, affaires étrangères, politique. Ça pose une question.
Ouais, ça pose question. Alors que je traverse la rue, un auditeur m'attrape au vol, il prend des photos, bonjour.
Bonjour.
Un auditeur.
Mais oui, c'est moi.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Alexandre. C'est quoi le mot du jour ?
Ah, eh bien, voici le mot du jour. Lisez-le-moi, s'il vous plaît.
Ah, c'est sur un iPhone. Je pensais que tu me donnais des trucs en papier. Des
grillé.
Des panneaux. La merdification. C'est tout un art, ça, non ? C'est l'art français, non ? C'est l'art de merdifier, en fait, tout ce qu'on fait. Shitification. Ah, merdification. Merdification. Ah oui, ça prend tout son sens en québécois.
Alors oui et non, car lui partait sur le fait de rater quelque chose. Moi, je lui parle de ce qui est sur le papier une excellente idée. Le moteur de recherche Google, par exemple, rempli aujourd'hui de liens sponsorisés, ou alors Facebook, qui est devenu un empire, a perdu de son idée originelle, qui était de rassembler les utilisateurs.
Ouais, je vois ce que tu dis. C'est assez fin comme concept. Après, quand on dit qu'un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc Facebook, ils ont toujours annoncé au début, c'est gratuit et ça le restera toujours. Et ils n'ont pas tort, puisque finalement, c'est toi qui es le produit. Tu leur fournis tes données, tu leur fournis toutes tes informations, ça leur permet de rester gratuit. Parce que c'est toi, finalement, qui es payant. C'est du temps de cerveau disponible, tu vois, ça shitifie le truc. Quoi.
Alexandre a aussi un autre exemple.
TF1 est un truc super, parce qu'en fait, t'allumes la télé, maintenant c'est plus le cas avec les box, mais t'arrives sur la chaîne numéro 1, quoi. Et pourtant, ils en ont fait une grosse merde à l'intérieur. Mask Singer et ces trucs-là.
Waouh.
C'est quoi
Laurent Ruquier dans une autruche, ça te fait pas rire, toi.
Mais non, mais j'ai allumé une fois, j'ai vraiment eu peur pour l'humanité. Tu vois. Mais ça, pour moi, c'est la merdification, quoi. T'as un canal, t'as une audience hallucinante, quoi. T'as un porte-voix hallucinant, et tu mets de la merde dedans, quoi.
Pourquoi on merdifie, alors ? Pourquoi faire dégrader ce qui est à l'origine un produit de qualité ?
C'est tout un circuit, c'est-à-dire qu'effectivement, ils doivent avoir des audiences, plus ils font d'audience, plus les publicités sont coûteuses.
L'idée, elle serait restée bonne si on n'avait peut-être pas eu de...
Bah, c'est tout le sujet du service public, en fait. Et de se dire, est-ce que on ferait pas de la meilleure qualité si on n'avait pas une pression économique et financière à démontrer chaque année ? Et c'est tout le sujet en ce moment.
Eh oui, c'est tout le sujet. Plus loin, cette dame, Karine, un peu timide, elle m'explique qu'elle vit d'habitude loin du tumulte de Paris, en Polynésie française.
La merdification. La merde, c'est une tentation pour tout le monde. La médiocrité, c'est une tentation pour tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une attitude à avoir, une posture qui est celle du contenu, de l'exigence, de l'épaisseur, du sens qui se cherche. Ce n'est pas des voies faciles, ce sont des voies alternatives, ce sont des voies complexes, mais en même temps, elles valent le coup d'être suivies, d'être découvertes.
D'accord, mais c'est quand même facile à dire. Comment on l'évite ? Elle nous cerne, cette merdification, non ?
Éteignez votre télé, ne cédez pas à la tentation de la facilité, ne cédez pas à la... Je pense qu'on n'est pas allé assez traîner dans les cimetières pour regarder ce que les gens avaient écrit sur leur tombe avant de partir. Je vais juste citer André Breton qui disait « Je cherche l'or du temps ». Lisez, ouvrez des livres, évitez la merde, on sait tous où elle est. Donc je crois que... Et en même temps, je me demande si je ne suis pas en train d'y céder alors que je vous parle sur un bout de trottoir, donc je suis follement inquiète.
Sympa pour le complètement à la rue, très bien. Alors l'idée qu'on merdifie, que toute bonne idée de départ se fait salir par sa réussite et son développement, finalement le parcours d'une bonne idée, d'une nouvelle appli, d'un nouveau service, aujourd'hui il est clair, séduction, absorption et profit. Et quand on a usé le concept jusqu'au bout, on prend les mêmes et on recommence.
D'André Breton à Laurent Ruquier dans une autruche, vraiment.
Ah ouais, vraiment.
Tour
c'est,
d'horizon
c'est complet.
Assez
c'est
éclectique.
Complètement à la rue.
Merci Quentin. Karine, elle a raison, pour éviter cette merdification, il faut se préserver, il faut faire des choix, il faut avoir une éthique de consommation et c'est peut-être plus facile, Mathilde, à dire qu'à faire. Comment on fait pour, ne serait-ce qu'en ligne, comment on fait pour déjouer l'algorithme ? On ne peut pas.
Alors, on peut déjà ne pas utiliser certaines applications. Je pense que c'est un premier élément. Je pense que, par ailleurs, il y a aussi des services qu'on peut cesser d'utiliser. Ouais. Je pense que c'est d'autant plus important que, quand on parle de merdification, on parle de la partie finalement visible, celle qui est de notre côté de l'interface. Ouais. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il y avait trois qualités, c'est-à-dire que la dégradation du service, par exemple, de l'usage d'une plateforme comme Uber, les chauffeurs, ils l'ont senti passer très très tôt, c'est-à-dire bien avant nous. Mmh. Et c'est pour ça que je parle d'une merdification en fait un peu croisé, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a une fois que le service devient incontournable, pour être rentable, les plateformes, elles vont tester des modèles économiques. Et donc, il s'agit pour nous aussi, à un moment, de choisir ou non quel service on consomme ou pas. Par exemple, à titre personnel, il y a des plateformes qui reposent sur des systèmes d'exploitation que je n'utilise plus.
Mais lesquelles ?
Alors, c'est tout à fait personnel, mais notamment toutes les plateformes de livraison ou de VTC.
Toutes. Il n'y en a pas une qui trouve grâce à vos yeux, car tous les systèmes économiques de toutes ces plateformes, livraison ou tout ce qui est VTC, elles sont toutes viciées.
Alors, je pense que la question, c'est celle de la régulation qui viendra. Éventuellement, si aujourd'hui la majorité des chauffeurs et ou des livreurs ne souffraient pas de ces modèles-là, éventuellement, on pourrait reconsidérer je pourrais reconsidérer de consommer ce type de produit. Quand je dis ce type de produit, c'est ce type de service d'intermédiation. Ouais.
L'exemple, on m'a dit l'exemple du JT ou alors de TF1 qui était parlant, l'outil de faire un boîtier culturel d'information dans tous les foyers, elle était bonne. Et regardez ce qu'on en a fait, la télévision et de ce que les gens en disent dans la rue. Bourdieu, dans son essai sur la télévision, parlait de cette loi du marché, de la concurrence qui a homogénéisé et puis a fait perdre un peu de son autonomie aux chaînes de télévision. Est-ce qu'il avait déjà senti venir la merdification, Bourdieu ?
Sacré Bourdieu.
Oui, alors, je ne vais pas faire parler Bourdieu. Mais en fait, effectivement, ça repose par contre sur des modalités ou des modèles économiques qui sont similaires. Les plateformes, elles n'ont fait qu'accélérer des choses qui préexistaient avant. Les modèles de la pub, on est ici dans un service public.
Pas de pub dans notre émission.
Oui, voilà, jamais. Mais en l'occurrence, les modèles publicitaires sont très connus des médias et depuis très longtemps. Donc, en fait, les modèles de dégradation de la qualité de service existe aussi depuis très longtemps.
Et on avait fait une émission sur le procès de Meta aux États-Unis accusé de position de monopole. Est-ce que ce genre de procès peut enrayer, entre guillemets, la mécanique de cette merdification ?
Alors oui, partiellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a deux types d'abus de pouvoir. Je parle de pouvoir de valorisation, mais en fait, il y a deux types d'abus de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est, on va dire, celui traditionnel, celui qui est pensé en gros par l'autorité de la concurrence, qui est le pouvoir d'exclusion. C'est-à-dire que, par exemple, quand Meta rachète Instagram ou WhatsApp, effectivement, il y a peut-être un défaut de concurrence et c'est à un moment injuste de trancher si oui ou non. C'est-à-dire que pour lutter contre cet abus de position dominante. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième abus de pouvoir, c'est un pouvoir d'exploitation qui fait que quand les plateformes deviennent incontournables, elles peuvent abuser finalement de leurs utilisateurs eux-mêmes. Et donc, pour une partie du travail, soit un travail qui existe, on va dire, traditionnel, je parlais de la livraison ou des chauffeurs VTC, par exemple aussi sur Airbnb, donc le travail d'hôte. Mais en parallèle, il y a aussi tout un travail cognitif, gratuit, qui est celui dont parlait votre auditeur, enfin celui que vous interviewez, qui est finalement un travail auquel nous, on consent de manière un peu tacite, qui est finalement notre propre consommation de ces plateformes-là. Et ça, c'est un travail gratuit. C'est ce qu'on appelle le travail numérique.
Vous aussi, vous trouvez qu'Insta, c'était mieux avant, que même TikTok a pris un sérieux coup de pelle. C'est normal, c'est la merdification. On continue de zoomer sur ce phénomène. On se demandera s'il est inéluctable ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs, dirait Ghislain Fontana, notre réalisateur à Catogan. Juste après, un Zoom Zoom test où nous jouerons avec les pires avis clients de l'histoire sur Amazon. Il sera question de la tasse Lucy Gallou de Quentin, évidemment. Le quiz arrive juste après Junior. Voilà, sur Inter.
Voilà. Fais la part, c'est vrai. Voilà.
C'est une merde, ne l'achetez pas. Le bruit des cigales est hyper mal fait. En plus, elle fuit, saloperie. Voilà deux commentaires. Deux commentaires parmi les 1847 avis clients Amazon concernant la tasse connectée Lou Cigalou. Ce qui explique peut-être pourquoi le business de Quentin n'est jamais arrivé au stade de la merdification. Mais la tasse Lou Cigalou n'est pas le seul produit à avoir subi les foudres des consommateurs sur Amazon, comme on va le découvrir dans le Zoom Zoom Test. Je vous livre des commentaires authentiques de clients Amazon. C'est vraiment authentique. À vous de me dire à quel produit ils se rapportent. Allez. On commence avec un commentaire de Marc à une étoile. C'est nul, ça ne vaut pas le coup d'être emballé. L'utilisation est au mieux aléatoire, il faut pousser fort, mais parfois il suffit de toucher, c'est bruyant. Je suis tellement heureux de l'avoir testé avant d'offrir cette merde en cadeau. S'agit-il...
Oh, c'est dur.
S'agit-il d'un cylindre à plaisir, comme m'appelle Manon, la marque Womanizer? D'un instrument de musique pour enfants?
Un cylindre à plaisir?
N'importe quoi.
C'est comme ça. Ou d'une tasse Lou Cigalou?
B. B.
A.
Ah, pour vous, il s'agit du cylindre à plaisir.
Je sais pas, il dit qu'il faut pousser et toucher.
Écoutez, bonne réponse de Quentin. Ah. C'était la réponse B. Non, maintenant, je sais que vous aviez rédigé un commentaire proche concernant un objet vibrant qui ne vous avait pas donné entièrement satisfaction, mais l'objet en question était un otamatone, un instrument de musique pour enfants, au son délicieux qui ravira la famille entière. Oui, Cyril adore le piquer à son fils pour jouer Take On Me pendant que sa femme prend son petit-déj. Sa femme qui m'a demandé dernièrement si ma femme avocate faisait toujours les divorces. Oh. Mais attention, top produit suivant. Avec un commentaire de Daniel Bourdin, et non pas Jean-Jacques, en date du 19 février 2025. Certes, il prend pas mal de place, mais il est vraiment pratique. Le seul défaut que je pourrais trouver, c'est que les instructions sont en espagnol. Et on est en France, bordel. Cette merveille qui recueille néanmoins 5 étoiles est un objet cher à Manon, puisqu'il s'agit... d'une cave à vin connectée, un cava vino, d'un air fryer, una air fryo,
ah, ouais.
Ou d'un set de citas lucigalou, los tasas di mierda.
B. Je suis devant.
Non, non, ah, c'est moi, toi, c'est le air fryer.
Je crois que c'est Quentin.
Oh,
qui est... Ah oui, réponse B, effectivement. Un air fryer. Et visiblement, maintenant, vu le temps qu'il vous a fallu pour utiliser le vôtre, plus de 2 mois entre la réception du colis et l'ouverture de ce dernier, vous c'est
toujours,
là aussi.
Toujours pas utilisé.
Le manuel devait être en espagnol. Comment, Quentin, pas étonnant qu'un manuel soit espagnol? Oh, madre de Dios. Un point en moins, Quentin, je suis désolé. Vous ne me laissez pas le choix. Bah. Le commentaire.
Gratos.
Le commentaire. C'est dommage, vous venez de gagner un point, vous avez perdu automatiquement.
Mais arrêtez, j'ai pas parlé.
Non, mais. Le prochain commentaire est plus succinct, épuré même.
C'était
Il concerne
écrit.
Un objet détourné de sa fonction initiale. Un seul mot, solide, utilisé pour du bricolage, donc difficile de donner un avis, mais ils sont de bonne qualité. Un homme de peu de mots, ce Dave, mais pas avare de reconnaissance car il a mis 5 étoiles à quoi? Un lot de 6 cock rings de tailles diverses? Un lot de 12 pinces à tétons décrites comme peu utilisées par le vendeur,
oh
un certain Pécourade 61. Ou un lot de 3 anneaux gastriques décrits comme présentant quelques traces d'usure par le vendeur, un certain C'est la carrière.
B. Non, non, les coqueries.
Dans ce tétons, pourquoi pas? Un Pierre.
Vous les achetez à Pierre?
Vous venez de perdre votre point, maintenant vous avez commis une erreur, vous avez parlé avant la fin des...
Non, je l'ai redit après.
Ouais, mais parlez quand même pendant. Mais si,
non,
c'est vrai.
En région,
mais elle le fait tout
fini,
le temps.
Vous êtes éliminé, ouais. Vous dites quoi, Quentin?
Moi, je dis la réponse.
Non, oh non.
La réponse, ah oui, bonne réponse, oui. Oh, les amis, oui, que l'âme humaine est complexe. L'âme humaine est si complexe, si tortueuse, qu'il s'est donc trouvé quelqu'un sur Amazon, et tout ça, c'est vrai, pour commander des cock rings à des fins de bricolage. Quel type de bricolage? On ne sait pas. Dave n'en a pas dit plus. Des travaux de plomberie, certainement. En creusant son profil Amazon, on découvre que l'année suivante, il a acheté une pompe à pénis, dont il est très satisfait. Mais là encore, je cite, c'était pour une blague. Sacré farceur, ce Dave. Stop. Préservons l'anonymat des personnes citées dans ce quiz. Enfin,
ce grand moment de radio.
Enfin, les amis, direction l'Espagne, encore pour notre dernier commentaire en compagnie de Fernando. Il est l'idéal pour de multiples activités, qu'il s'agisse de petits travaux dans le jardin, de planter ou d'élaguer. Pour la photographie, c'est confortable. Dans mon cas, j'enregistre pas mal de répétitions de spectacles de danse où je place l'appareil photo sur le trépied à une hauteur égale à la moitié de la hauteur d'un corps afin que l'angle soit naturel. J'aime pouvoir m'asseoir confortablement en contrôlant la caméra. Ça donne envie, surtout quand on sait que l'objet en question, dont Fernando est si fier, est un pouf Lucigalou, une chaise de camping Décathlon ou un tabouret télescopique à bretelles.
C'est
B. Non, c'est D4. B.
C'est D4.
C'est français, D4. C'est bon.
Vous travaillez avec cette marque, vous aussi?
Un peu. Un peu.
Manon, bonne réponse. Ouais. Bonne réponse. Écoutez plutôt. Notre tabouret de camping est facile à transporter sur votre épaule ou à la main avec ses pratiques bretelles fournies. Donc vous pouvez vous reposer quand vous en avez besoin, ce qui est génial.
Un argumentaire. Pas à visualiser.
Non, mais tabouret comme avec ça, des bretelles que vous voulez travailler comme ça. Un argumentaire qui n'a pas convaincu un autre utilisateur, Beau1200, qui a laissé ce commentaire cruel. Chef-d'œuvre, deuxième utilisation, retour au sol. Une étoile pour le tabouret à bretelles et des milliers dans les yeux de Quentin qui remporte le Zoom Zoom Test. Et une fois n'est pas coutume.
Merci à tous.
Malgré les points de pénalité.
Oui, c'est vrai. Il y a eu
la triche. C'est plus que c'était TikTok, je retourne sur Copain d'avant. Voilà la réflexion que je me faisais hier soir en scrollant. Et oui, il y a comme quelque chose de pourri au royaume des réseaux sociaux. Et ça a même un nom, Zoom sur la merdification des plateformes cet après-midi avec l'économiste Mathilde Abel. Mathilde, est-ce que depuis le retour de Trump au pouvoir, avec plusieurs plateformes qui ont carrément arrêté, on peut le dire, de faire la modération, en tout cas elles ont vraiment considérablement diminué leur modération, est-ce que ça, ça contribue aussi à la merdification qui était déjà en cours, on l'a compris?
Oui, après, c'est, encore une fois, c'est des décisions politiques, stratégiques de la part des entreprises. Si elles fondent uniquement leur objectif, en fait, qui est en termes d'apparier d'un côté du marché, c'est-à-dire votre engagement à continuer à utiliser des services, quitte à que ce soit sur de l'information éminemment polarisante, clivante, et de l'autre, en fait, des publicitaires qui sont toujours prêts à payer, tant qu'elle vous a enfermé, en gros, dans ce dispositif-là, vous pouvez, cette dégradation-là peut continuer, quoi.
Manon.
Oui, pardon, j'allais dire, il y a peut-être une alternative à tous ces réseaux dont on parle, Meta, X, TikTok, etc. Ah oui. C'est Blue Sky, sa PDG, Jay Graber, a même déclaré qu'elle ferait tout pour prémunir Blue Sky de l'enchidification, de la merdification dont on parle. Est-ce qu'on peut la croire? Est-ce que c'est vraiment possible de faire ça aujourd'hui sur une plateforme?
Alors, oui, au sens où je pense que... Alors, la question derrière, c'est celle du modèle économique. Comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a... Pour être très court, il y a quatre principaux modèles économiques, celui de la commission, celui de l'abonnement, celui de la commercialisation des données via la publicité, et puis les marchés internes. Enfin, voilà. Mais la question, ce sera quel sera le modèle économique de Blue Sky, en fait, aujourd'hui.
Là, elle se permet de dire ça parce qu'elle est au début.
Potentiellement,
ça va changer dans 5 ans, en fait.
Exactement. Aujourd'hui, en fait, elle est toujours dans cette phase les premières phases dont j'ai parlé tout à l'heure, de croissance. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'elle va asseoir ça sur le plan du modèle économique. Il y a des modèles qui sont fondés uniquement sur le don, je le rappelle. C'est-à-dire les modèles, par exemple, comme Signal, la messagerie Signal, ou comme Wikipédia, qui sont des modèles, en fait, de plateforme qui avec toujours... Et là, c'est clair d'emblée.
Mais il y a une phrase qui me revient, vous me dites peut-être que je dis une énorme connerie, mais j'ai l'impression qu'il y a fort longtemps, sur Facebook, il y avait écrit « Ici, il n'y a pas de pub et il n'y en aura jamais ». C'était Facebook, ça?
Oui, c'était Facebook.
Oui, ou gratuit. Ce serait gratuit.
Bon, c'est vrai que c'est gratuit, remarquez.
Ça reste gratuit.
Oui, ils arrivent à...
Mais c'est pas vraiment gratuit, finalement. Est-ce qu'ils revendent nos données aux publicitaires, ou alors ils vont encaisser les annonceurs pour apparaître en publicité?
Voilà.
Voilà, c'est ça. En fait, ça fonctionne comme ça.
Oui, alors la question, on a toujours un peu ce mythe de dire que les plateformes vendent les données. Ce qu'elles vendent, c'est du profilage. C'est-à-dire que la capacité, finalement, à un moment, à une publicité, de tomber au bon endroit, au bon moment, à la bonne audience, sur la bonne page. Mais en soi, donc, c'est ce matching-là qui les intéresse. Elles ne revendent pas directement les données.
La publicité, on le disait tout à l'heure, on parlait de TF1, ça a toujours existé, la publicité. Au XXe siècle, en tout cas. Cory Doctorow, dont on parlait tout à l'heure, lui, il parle de pot de vin, carrément, quand il explique que des commerçants paient pour être mieux référencés sur Amazon. Est-ce que cette notion de pot de vin, elle s'applique, selon vous?
Je pense que c'est un terme qui est un peu volontairement provocateur, mais il dit quelque chose de vrai. En fait, ce qu'on observe, c'est une captation de la visibilité pour exister sur la plateforme, en fait. Donc maintenant, il faut payer pour exister. Et ce n'est pas un pot de vin au sens légal, mais par contre, c'est une forme de rente organisée qui transforme un espace, on va dire, supposé être neutre, libre, finalement, en un espace où il faut payer pour pouvoir jouer. On appelle ça pay to play.
Mais c'est surtout que la pub est, en fait, beaucoup plus insidieuse qu'avant. Parce qu'avant, une publicité à la télé, on avait tout de suite conscience que quelqu'un avait payé pour cette pub et qu'on nous délivrait un message. Aujourd'hui, dans le référencement, on fait juste notre recherche, on voit le premier truc qui arrive sur Google, on se dit cette marque, elle a l'air géniale. En fait, ils ont juste payé, elle n'est pas géniale. Et donc ça, c'est là qu'il y a presque
un vice dans le capitalisme.
Non, mais il faudrait que ce soit noté, en fait, que c'est poussé par...
C'est noté, sponsorisé,
c'est
noté, non
c'est pas tout le temps. Pas tout le temps.
Mais peut-être qu'on peut parler des pop-up, hein, de ce qui nous arrive dessus. Alors. C'est-à-dire qu'on ouvre une application et parfois on se fait, et c'est ce que dit Cory Doctorow, c'est-à-dire qu'on se fait happer l'attention alors qu'on allait chercher une information pour un GPS, pour un restaurant par exemple, on a des pubs qui nous tombent dessus. C'est ça aussi la merdification, c'est-à-dire qu'on laisse ouvert des pop-up qui arrivent comme ça.
Oui, elle est éminemment protéiforme en fait, elle prend des formes vraiment très 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 variées, c'est ce que je disais. Ça va depuis par exemple la qualité de service sur Uber qui se dégrade, c'est-à-dire qu'avant vous aviez un service premium, un chauffeur, on vous ouvrait la porte, la bouteille d'eau, les bonbons, etc. Ah, effectivement, aujourd'hui, chercher une ligne de contenu sur, sur Marmiton.
Je
grossis le trait, je fais un peu exprès, mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'au début, on a un contenu qui est gratuit, premium, et puis petit à petit, en fait, ces contenus le sont de moins en moins.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise, on va prendre une plateforme, est obligée de faire de la merdification ?
Alors, j'aimerais bien faire la distinction entre merdification et professionnalisation. C'est-à-dire que, par exemple, une plateforme comme Airbnb, bon, je suis désolée, c'est le service public,
Vous avez vraiment cité plusieurs.
D'accord, très bien. Pour en citer d'autres, on peut citer par exemple Airbnb, qui est une plateforme de pair à pair ou des choses comme ça. Voilà. Airbnb, par exemple, c'est plutôt forger un modèle sur... Alors, il y a d'autres effets pervers hein, d'Airbnb, mais par exemple, sur plutôt de la professionnalisation. On n'est plus sur je vais chez l'habitant, j'ai une expérience typique, etc. Le côté, on va dire, typique a été totalement, pour le coup, artificialisé, et on est sur des autres très professionnalisés, etc.
Mais des gens qui ont acheté une dizaine d'appartements et qui les...
Voilà, exactement. Mais en l'occurrence, la qualité du service, elle n'est pas la même. On valorise pas la même chose. Avant, on valorisait l'authenticité. Maintenant, on valorise la propreté, par exemple.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir maintenant la personne à suivre, et c'est quelqu'un vraiment d'assez peu connu.
Je vous présente Mark Zuckerberg. Il a 40 ans, il est américain, et c'est l'un des entrepreneurs les plus puissants, le plus riche, le plus controversé de la Silicon Valley aujourd'hui. Lui, le principe de merdification, on l'a dit, il le connaît bien, c'est peut-être même l'un des premiers à l'avoir mis en place à une échelle mondiale. Car quand il lance Facebook en 2004, ça semble être le début d'une belle histoire, l'étudiant prodige de Harvard qui veut se faire des amis et qui crée un réseau social pour se connecter avec des personnes partout dans le monde. Sur le papier, c'est une idée révolutionnaire et très séduisante. D'ailleurs, c'est une révolution. 4 ans après sa création, le réseau compte plus de 100 millions d'utilisateurs, du jamais vu dans le monde. 4 ans plus tard, ils sont 1 milliard. Zuckerberg est porté au nu. Dans les médias, il est décrit comme le roi de la Silicon Valley. Il passe de petit entrepreneur geek à milliardaire accompli à la tête d'un véritable empire. Sauf que si son empire s'est bâti sur la promesse d'un monde plus connecté sur le papier, il a progressivement glissé vers un environnement hyper monétisé, addictif et souvent toxique. Ça commence sur Facebook. Au départ, les contenus étaient plutôt feel-good, partagés dans l'ordre chronologique, hein, on s'en rappelle, en fonction de nos amis. Mais au fur et à mesure, le fil d'actualité est devenu un théâtre d'algorithmes où les contenus les plus clivants sont poussés. Le réseau alimente les fake news, comme pour les élections de 2016 aux États-Unis. Zuckerberg en rajoute une couche quand il rachète Instagram. D'un réseau créatif et visuel, il devient une vitrine aseptisée où les influenceurs font de la pub à outrance à base de réels formaté et de publications filtrées. La recherche de l'attention se fait au détriment de la qualité. Des associations de parents alertent aussi de plus en plus sur la responsabilité de Meta concernant la sécurité en ligne de leurs enfants. Des contenus violents, sexuels et toxiques sont poussés par le réseau à des mineurs qui sont confrontés au pire. La vie sur les réseaux de Meta se dégrade de plus en plus. Mark Zuckerberg est même en procès, on l'a dit actuellement aux États-Unis, car il est accusé d'abus de position dominante. Et puis évidemment, il y a eu ce coup de tonnerre en début d'année quand le patron de Meta a décidé d'assouplir sa modération et de changer les règles de son entreprise pour plaire à ce cher Donald Trump. La merdification de Meta est donc bien en place et malgré quelques appels au boycott, on est encore des milliards d'utilisateurs à y passer des heures par semaine et à renflouer leurs caisses.
Merci Manon pour cette conclusion optimiste.
Oui.
Mathilde Abel, Zuckerberg, Musk, tous ces gens-là, on parle de merdification, ils savent de quoi on parle, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font.
Alors ils appelleront pas sa merdification évidemment et en fait pour eux c'est la rationalisation.
Voilà, c'est l'autre mot pour
voilà,
eux.
Voilà, c'est un autre mot et encore une fois ils le font de manière très très rationnelle et ça se voit en fait dans toute une espèce de division cognitive du travail qui sont à l'intérieur de ces plateformes-là. J'insiste là-dessus parce que par exemple il y a beaucoup de travailleurs par exemple d'ingénieurs et ou d'ailleurs aussi d'économistes qui travaillent pour ces plateformes-là qui vont passer de plateforme en plateforme. Ce sont des professionnels du matching. Et donc en fait ils savent pertinemment ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils viennent dégrader demander un service, vous avez l'impression de percevoir pourquoi on propose ça. Ah tiens, c'est marrant, en dessous il y a une image quand même, elle est rigolote. Bah, en fait, c'est exactement ça. Ils savent pertinemment que l'image suivante va vous plaire. Tout le pouvoir des algorithmes là, c'est bien de savoir que même si le contenu va vous semble de moins de qualité, bah, il va quand même vous intéresser.
Il y a un truc qui va nous faire rester exactement. Et continuer de cliquer.
Ouais. En fait, sur le plan économique, on pourrait dire que en fait, elle trouve un point d'équilibre où la qualité est suffisante pour qu'on reste, mais pas meilleure que nécessaire.
Voilà, ce sera la conclusion pour comprendre la merdification. À suivre, vous n'avez pas tout compris à ce phénomène de merdification. Vous pensez encore qu'il s'agit d'une déviance de GC, notre humoriste de l'extrême. Non, Pierre Courade vous résume l'essentiel de ce qu'on s'est dit en une minute chrono. Mais pour l'heure, on accueille celle qui ne merde jamais. Bonjour, Lucie Carbone.
Hello, ben oui, on va parler relations toxiques, confiance et dépendance. Et pour une fois, ce n'est pas une série Netflix. Ouais. Non, c'est Netflix.
La chronique de Lucie Carbone, c'est juste après Arat Kilo and Bendia sur Inter.
Hey, Mamani, you all right?
Hey, Mike. Comedy. Bendia. Arat Kilo. On est à l'aise.
Bendia.
Easy like a Sunday moon. Fair girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, suits out my pores. I put in work before the school.
Je ne comprends pas trop le procès qu'on fait aux plateformes. Je le cite, mais moi, quand je me donne du plaisir avec la main gauche en scrollant avec la main droite sur Hugo Clément Sport, ça marche très bien. Oui, il fait partie de ces gens qui restent fidèles. Qui restent fidèles à Instagram,
merci,
c'est-à-dire
la
seule chose à laquelle il reste fidèle. Bonjour Pierre Courade.
Je salue mon mari.
Évidemment, oui. Je le salue
bonjour,
aussi.
Monsieur, bonjour à tous.
C'est pour rire. Le résumé de tout ce qu'on s'est dit en une minute, tagueur en main, dirait Quentin, lui.
Et en dehors du compte Hugo Clément Sport, la merdification touche tous les réseaux sociaux en position de monopole. C'est ce qu'est venu nous expliquer l'économiste spécialiste du numérique Mathilde Abel. Un phénomène qui tient d'une stratégie économique et de la pire part du capitalisme et qui peut être schématisé ainsi. Première étape, la plateforme cherche à se rendre utile, par exemple Google. Deuxième étape, après avoir fidélisé les utilisateurs et les avoir rendus dépendants, la plateforme plateformes, devenues incontournables, cherchent des publicitaires pour monnayer leurs publications au détriment des utilisateurs lambda. Troisième étape, quand tout le monde est interdépendant et que l'argent entre automatiquement, la plateforme cherche à rationaliser les coûts au profit de ses actionnaires. Elle met de côté la modération, l'ergonomie, des trucs pas vraiment utiles, multiplie les pubs ou augmente les abonnements. C'est là qu'on en arrive à la merdification. Le service est délabré, un peu comme le dégradé espagnol de Quentin, lui. Néanmoins, les plateformes marchent sur une ligne de crête. Hein. Il ne faut pas que les utilisateurs quittent le service s'il est trop dégradé. Dégradé, mais pas trop, donc. Vous direz ça à votre coiffeuse la prochaine fois que vous la verrez, Quentin.
Vraiment, alors, il a fait 50 secondes. On part sur le terrain des cheveux. Est-ce que vous avez quand même une couronne de cheveux sur le devant?
Non, mais c'est
parce que je suis en roi comme Bilal Hassani.
Très bien, mais écoutez, suivez-nous en vidéo sur les plateformes, justement. Celle de France Inter ne se dégrade jamais. Merci Pierre. Et pour conclure cette émission sur la merdification, on a appelé l'humoriste qui a failli faire un AVC en lisant le sujet, pensant qu'il y avait un lien avec la qualité de ses chroniques, alors que Lucie Carbone, c'est à vous, bien sûr, rien à voir.
Oh, coucou, ça va vous?
Ouais.
Ouais, ben super, parce que moi je suis en pleine instance de rupture. Oh. Et oui, après 10 ans de relation, le problème c'est que je n'arrive pas à le quitter. J'arrive pas à quitter Netflix. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir validé les conditions générales à la mairie, je n'ose pas partir, je suis en otage de ma relation. Alors ça c'est vache, hein, parce qu'au début, monsieur a déboulé tout plein de promesses, t'inquiète ma biche, t'auras tout Hollywood. Alors déjà là, j'aurais dû me méfier, parce que le dernier à avoir dit ça, c'est Hervé Weinstein. Et niveau sainteté, c'est pas lui Léon XIV. Alors j'en ai pris plein les yeux pendant un petit moment, je l'ai même présenté à ma famille, ils l'ont adopté direct. C'est d'ailleurs à ce jour le seul qu'ils ont réussi à adopter. En plus, pour une fois que ça se passe bien, franchement, j'ai déconné, j'en ai abusé, j'ai régalé toute ma famille. Genre à Noël, moi, je suis jamais arrivée sans bûche. Je suis toujours, pardon, arrivée sans bûche, mais toujours avec un mot-clé. Ah oui. T'as pas Netflix? Mais t'inquiète, je te file mes codes. C'est-à-dire que toute ma famille a mes codes, même ceux que je ne connais pas. C'est-à-dire que quelqu'un s'est tapé Narcos avant moi. Je suis sûre que c'est un cousin par alliance que je n'ai jamais vu. Alors récemment, mon petit Netflix, il m'a fait le pompon. C'est-à-dire qu'on est en plein moment de kiff pendant une scène, juste avant de savoir qui est le tueur. Arrête, c'est pas lui. Ce moment d'émotion vous est offert par Lucie Carbone, actuellement en spectacle au Grand Point Virgule et en tournée. Il te lance une pub! Et également sur YouTube, Instagram et TikTok. C'est insupportable. C'est insupportable parce qu'en plus, tu sais que la pub, elle peut revenir.
Elle revient.
Alors moi, j'ai essayé de le quitter une fois. Ça a duré 10 minutes, parce que j'ai reçu un coup de fil. Au bout du fil, ma mère, oui, Lucie, c'est maman. On n'arrive plus à se connecter là sur Netflix. En plus, c'est dommage, parce que ton père aimerait beaucoup regarder un documentaire sur le cul des poulpes. Rappelle-nous. Alors, une fois, on a réussi à me récupérer sur une raclette à la bougie, mais alors sur le cul des poulpes, alors là, j'ai touché le fond. C'est-à-dire qu'on devient tellement dépendant des plateformes, parce qu'elles ont un monopole, que quand on veut en partir parce que le service se dégrade, on dirait un vieux couple qui ne veut pas se quitter au motif de... flemme. En plus, tu te rends compte quand même, on a le même compte EDF, donc vraiment pas la peine, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la relation toxique en 4K HD qui s'étale sur 1000 saisons, c'est-à-dire que même si c'est fini, potentiellement, c'est pas fini. C'est-à-dire que t'imagines un soir bercé par la lune, enivré par l'alcool et entouré de 2000 cas tendrement chocolat, toudoum, tu retombes nez à nez avec ton ex, toujours là, toujours dispo, ce con. Les souvenirs remontent, les bons moments surtout. Vous vous approchez langoureusement et là, ce moment d'émotion vous est offert par Lucie Carbone, toujours en spectacle à Paris, en tournée partout bien sûr.
Merci Lucie Carbone, on vous retrouve sur scène, comme vous l'avez déjà souligné de façon assez subtile et délicate, et également très prochainement dans Zoom Zoom Zen, comme d'habitude. Merci beaucoup Mathilde Abel de nous avoir permis de cerner ce phénomène qu'on ressentait, hein, d'une manière diffuse, mais sans pouvoir mettre un mot dessus. Désormais, ce mot-là, c'est merdification. Merci à vous. Vous, surtout, ne bougez pas, puisqu'on revient juste après le journal de 17h, et le vendredi, c'est la fête, c'est Zoom Zoom Back. Aujourd'hui, retour en 2015. Quentin se trémoussait parce qu'il venait de découvrir Boogie Wonderland dans la BO du film Intouchable, qui venait d'arriver à Alençon 4 ans après la sortie du film. Et surtout, une nouvelle série appelée à devenir culte voyait le jour sur Canal. Et si je vous disais que son producteur est avec nous cet après-midi pour fêter la sortie du remake américain du Bureau des Légendes, vous me diriez qu'on est formidable. Vous n'auriez pas tout à fait tort. A tout de suite.